franceinter.fr.
Bonjour. Le samedi 12 décembre prochain, dans un peu moins de deux semaines, sera un jour historique en Arabie Saoudite. Pour la première fois dans ce pays, les femmes pourront être candidates et voter lors d'élections, les élections municipales. Ainsi en avait décidé il y a 4 ans le roi Abdallah, qui est mort depuis, remplacé par le roi Salman. C'est également le roi Abdallah qui avait imposé un quota de 30 femmes dans l'Assemblée nationale, une assemblée uniquement consultative dont les membres ne sont pas élus, mais désignés par le pouvoir. Ainsi progresse, très lentement et sous les pressions internationales, les droits de l'homme et les droits des femmes, dans un pays qui reste l'un des plus conservateurs du monde. Les organisations de défense des droits de l'homme considèrent d'ailleurs ces progrès comme très insuffisants. La séparation des sexes reste la règle en Arabie Saoudite, où les femmes sont obligées de porter une tenue qui les couvre de la tête aux pieds. Elles ne peuvent travailler, voyager ou avoir un passeport qu'avec l'autorisation d'un homme de leur famille, et elles n'ont toujours pas le droit de conduire. Les droits des femmes ne sont pas le seul défi auquel est confronté aujourd'hui ce pays dans une région en crise, avec l'émergence du groupe terroriste État islamique et une rivalité croissante avec l'Iran. L'Arabie Saoudite s'est lancée dans une guerre aventureuse et coûteuse au Yémen, au moment où la chute du prix du pétrole pourrait amener quelques difficultés économiques. À l'approche de ces élections municipales saoudiennes, Christian Cheneau et Arthur Gerbeau ont pu se rendre dans ce pays habituellement très fermé aux journalistes occidentaux. Voici leur reportage. Arabie Saoudite et Dieu cacha la femme.
Interception, le magazine de la rédaction.
Alors, allez, on va entrer.
السلطه الاسرائيليه تبدا باغلاق احياء عربيه في القدس تنفيذا لقرارات الحكومه لوقف هجمات الطعن وزاره الدفاع الامريكيه تحث الجيش العراقي على شن معركه لاستعاده الرمادي من داعش
Randa Al-Hamad, directrice de Radio MBC. Je travaille ici depuis un an. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les femmes saoudiennes n'ont pas de liberté. En fait, grâce à Dieu, nous avons pris nos droits et notre liberté.
Il y a des progrès ?
Bien sûr.
Par exemple ?
Avant, vous n'auriez jamais pu voir une femme travailler dans une radio. Aucune femme ne travaillait à la télévision. On peut dire que durant ces 15 dernières années, la situation des Saoudiennes s'est beaucoup améliorée.
Et aujourd'hui, c'est quoi l'étape suivante en ce qui concerne les droits des femmes ? Par exemple, j'ai appris que les Saoudiennes peuvent désormais voyager sans l'autorisation de leur mari.
En fait, elle peut voyager sans la permission de son mari. Un père ne peut pas refuser que sa fille voyage ou qu'un frère lui interdise de voyager. Mais elle doit obtenir leur permission au moment où elle fait son passeport. Et cette autorisation de voyager est valable pendant toute la validité de son passeport.
Mais elles n'ont pas le droit de conduire.
Non, en fait, nous ne souhaitons pas conduire, contrairement à ce qu'on dit.
Pourquoi ?
Comment dire ? On aime avoir un chauffeur pour se balader. Un chauffeur conduit, on descend de la voiture et c'est lui qui s'occupe de trouver une place de parking. Nous, on est juste occupé à faire notre shopping dans les centres commerciaux.
Et pour celles qui ne peuvent pas se payer un chauffeur, qui n'ont pas assez d'argent, comme il n'y a pas de bus, Elle reste à la maison ?
Il y a plein de chauffeurs. Il y a des sociétés spécialisées dans le transport. Il te suffit d'attendre 5 minutes pour que le chauffeur arrive.
Khan el-Malik Abdallah, feu le roi Abdallah avait amélioré le statut des femmes. Est-ce que le nouveau roi Salman va poursuivre dans cette voie ?
Bien sûr, le roi Salman est connu pour ses actions en faveur des femmes. Que Dieu lui prête une longue vie. Il soutient les femmes. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus comme liberté ? Qu'est-ce qui nous manque ?
En Arabie Saoudite, tout est organisé autour de la séparation des sexes. La mixité est bannie dans les espaces publics. Au restaurant, des espaces sont réservés aux femmes et aux familles, souvent à l'étage. Les hommes et les célibataires des jeunes ou prennent leur café entre eux, au rez-de-chaussée ou en terrasse. Au quotidien, les Saoudiennes dépendent très largement de leur mari. L'Arabie est le seul pays au monde où les femmes n'ont pas le droit de conduire. Certaines s'y risquent, mais encourent les foudres des religieux. À Riyad, faute de transport en commun, les femmes sont donc conduites par leur mari ou par un membre masculin de la famille. Elles utilisent aussi les services des 2 millions de chauffeurs de taxi pakistanais ou indiens. L'arrivée du métro de Riyad, prévue en 2018, devrait permettre aux femmes de circuler plus librement et le chantier tourne à plein régime. Fatia Daya, bonjour.
Bonjour.
Là, on se trouve devant la carte du futur métro de Riyad. C'est un projet colossal.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est probablement le plus gros projet au monde en matière de transport en commun.
C'est-à-dire que là, on va créer un projet de transport public qui n'existe pas à Riyad.
C'est ça. Riyad est une ville de 5,8 millions d'habitants qui compte augmenter à 8,3 millions d'ici 2030. On n'a pas encore de transport en commun. Donc voilà pourquoi nous avons dans ce projet 6 lignes de métro et 24 lignes d'autobus pour couvrir la ville.
Parce que là, les gens circulent comment en ce moment ?
Écoutez, les gens actuellement circulent en voiture privée, il y a des taxis, il y a un réseau, disons, limité de bus, mais ça s'arrête là.
En termes de budget, c'est colossal aussi.
Oui, on parle d'à peu près 23 milliards de dollars.
Alors, est-ce que les femmes pourront emprunter ce métro ?
Oui, absolument. Les femmes pourront monter dans les voitures, dans le métro et dans les autobus également. Comme dans n'importe quel autre mode de transport, il y aura des voitures ou des sections dans le train première classe, une section pour les familles, une section pour les célibataires. Et dans le cadre de la section première et des familles, évidemment, les femmes pourront embarquer à bord de ces sections-là.
Ce qui signifie pour elles une mobilité facilitée.
Écoutez, indiscutablement, aujourd'hui, la femme a besoin d'avoir un chauffeur ou un membre de la famille qui conduise, donc son père, son frère, etc. Donc, pour les déplacements quotidiens, que ce soit à l'université, que ce soit pour aller au travail ou même pour aller faire du shopping, c'est pas, disons, très pratique. Parce qu'elle doit compter sur quelqu'un, une tierce personne pour l'aider dans ses déplacements. Il y a bien sûr des taxis, mais avec le nouveau réseau, ça va lui permettre une plus grande mobilité, donc elle pourra prendre le métro, aller à son travail le matin, aller faire ses emplettes, ainsi de suite. Et malgré le fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de travaux ainsi de suite pour la construction, les gens attendent évidemment impatiemment la fin des travaux pour pouvoir commencer à circuler librement dans la ville.
Est-ce que vous pensez que là, comme le gouvernement saoudien a un petit peu moins d'argent à cause de la chute du prix du pétrole, il y aura assez d'argent pour terminer ce projet faramineux ?
Non, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, le projet fonctionne et continue comme prévu. Il n'y a pas eu d'instruction au contraire. Non, nous, on continue comme si de rien n'était avec le projet.
On va aller faire une visite de chantier. Alors, on va aller où exactement?
Écoutez, on va venir ici à cette station-là qui est ce qu'on appelle 5C2. C'est le quartier s'appelle Salah Eddin. Donc, ce sera la station de métro du quartier Salah Eddin. Et c'est là où un des tunneliers a percé le mur de la station. Donc, on y a fait une petite célébration avec les habitants du quartier. On les a invités à venir sur place pour voir un peu la machine et quand elle est sortie du tunnel, pour qu'on puisse également impliquer la population avec le projet. C'est important que la population se sente concernée, parce que c'est pas un projet pour le gouvernement, c'est un projet pour la population. Donc, dès qu'il y a une occasion pour que les gens participent aux événements importants dans la construction, c'est une occasion pour nous de les amener plus proches du projet.
Donc là, on va aller sur la ligne verte. Hein.
Oui, c'est ça. C'est la ligne verte qui est pas loin d'ici et qui est la ligne qui va couvrir tous les ministères.
Et qui est une ligne nord-sud.
C'est ça. C'est une ligne du nord au sud. Tout à fait.
Nous sommes ici sur le chantier du futur métro de Riyad, plus précisément à la station Salah Eddin de la ligne verte. C'est un des projets phares de la capitale saoudienne, avec le nouvel aéroport ou le futur quartier des affaires. Le métro doit coûter la bagatelle de 23 milliards de dollars. Et même si les prix du pétrole sont en forte baisse, eh bien, il n'est pas question de retarder ce projet qui est prioritaire pour le gouvernement saoudien.
My name is Abdullah Al-Mushawa.
Je m'appelle Abdallah Ishawa, je suis l'un des ingénieurs sur ce chantier du métro de Riyad. Et là, on va vous expliquer ce que les tunneliers ont fait il y a 2 semaines. On a 2 tunneliers. L'un d'eux a progressé de 41 mètres en une seule journée avant-hier. Ensuite, on a ralenti un peu la cadence, le temps de construire ce segment temporaire. On y va plus doucement, comme ça on peut aussi construire la station qui est en surface et tout le reste.
Quelles sont les difficultés de ce chantier ?
Eh bien, parfois on peut trouver des cavités en creusant les tunnels, alors il faut les combler en y injectant du ciment. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas rencontré d'obstacles majeurs. C'est pour ça, je vous l'ai dit, qu'on peut progresser aussi vite en une seule journée.
Dans Riyad, la circulation est souvent très dense. Les taxis ont du mal à se repérer dans cette ville de plus de 6 millions d'habitants. La plupart des chauffeurs sont des Pakistanais qui ne connaissent pas les itinéraires et qui doivent souvent appeler un ami pour demander leur chemin. Dans notre cas, nous nous dirigeons vers le nord pour rencontrer Mazen Essouderi, un financier saoudien. Mazen Essouderi est un trentenaire qui appartient à une grande famille du royaume. Comme tous les Saoudiens, il porte une dise d'achat blanche, l'habit traditionnel. C'est un libéral qui veut que l'Arabie se modernise. Pour lui, permettre au plus grand nombre de femmes d'accéder au monde du travail n'est pas seulement une mesure d'équité, c'est surtout un impératif économique au moment où les autorités saoudiennes cherchent à diversifier des sources de revenus du royaume tirées essentiellement du pétrole. Donc Mazen, on est où là?
Oui, c'est la salle des marchés. C'est là, on fait la transaction. Il était actif aujourd'hui le marché saoudien. How many trades happened today, Hisham?
How many trades?
Yeah, today. The volume?
The volume around 3 billion.
3 billion. 3 milliards.
Until now.
3 milliards.
De riyal.
De riyal. De riyal.
C'est beaucoup?
C'est moyen. Quelquefois, elle est arrivée jusqu'à 6 milliards.
Comment va la bourse de Riyad? Elle est bien ou pas? Elle est en...
Ah oui, comme investisseur saoudien, je vais dire très bien, venez investir là. Mais bien sûr, il est bien affecté avec le prix du pétrole, parce que le secteur pétrochimie, il est fait à presque 20% de la marché.
Donc c'est un des plus importants marchés financiers du Golfe?
Bien sûr, toutes les mines, tout le Moyen-Orient.
C'est le premier marché du Moyen-Orient?
C'est le premier marché du Moyen-Orient. Je vais donner des chiffres. 2009, 50 000 femmes qui travaillent au secteur privé, juste. 50 000. Les Saoudiens sont 20 millions. Les marchés, alors les libres saoudiens sont presque 5 millions. Mais le CRESA, juste 50 000 femmes qui travaillaient en 2009.
Ils travaillaient où?
Par exemple, ils travaillaient sur les entreprises bancaires.
Le commerce?
Le commerce, beaucoup.
Les hôpitaux?
Les hôpitaux. Après ça, il y en a beaucoup de règles qui ont changé depuis 2009. Il a augmenté le nombre de 50 000 jusqu'à 400 000. En 2013, à 400 000. Cette augmentation, ça n'a rien à voir avec l'économie. C'est avec la régulation.
La loi.
La loi. Pour ça, nous avons besoin de beaucoup de changements de loi pour donner plus de chances des femmes de travailler. 70% des chômeurs sont des femmes. Ils sont des femmes. C'est-à-dire, nous avons un problème avec la culture, avec la loi. Nous devons changer la loi pour pousser les chances des femmes.
Justement, à la banque, ici, il y a beaucoup de femmes qui travaillent.
Oui, nous avons beaucoup de femmes. Presque 25%. 25% des employés sont des femmes.
C'est beaucoup, déjà.
Ah, c'est bien, on a le besoin. Elles sont bien éduquées, elles sont disciplines. Pourquoi pas? Même, je vous dis un point. 70% des gens qui travaillent le marché, ils travaillent avec le gouvernement. Pour ça, les autres 30% avec le secteur privé. Pour ça, nous devons forcer le secteur privé pour créer du travail pour les filles, pour les femmes.
Et là, le blocage, c'est d'abord les religieux qui bloquent un petit peu la tradition.
Tradition, je veux dire la tradition.
À l'issue de notre entretien avec Mazen Essoudéri, nous avons demandé à visiter la section féminine de la salle des marchés et de pouvoir rencontrer certaines employées. Notre souhait n'a pas été exaucé. C'est compliqué, nous a expliqué un peu gêné un cadre de la banque. En plus, il y a des caméras partout et donc faire entrer des hommes dans la section femmes pourrait lui valoir des ennuis. Marie-Clotilde de Bonfils est une architecte paysagiste française qui travaille sur le deuxième grand chantier de Riyad, le futur quartier des affaires. C'est une des rares femmes présentes sur le site.
Marie-Clotilde de Bonfils, on est où là?
Vous êtes sur la Tumama Road, qui est la partie, la route centrale au milieu du King Abdullah Financial District. Et devant vous, vous avez le monorail de Sistra qui est en cours de construction.
Et là, on voit les tours.
Et vous voyez les grandes tours. Vous avez la grande tour CMA qui fait 72 hectares et les autres bâtiments du Financial Center.
Et là, c'est combien d'hectares de construction?
90 avec 40 tours en simultané.
C'est un projet énorme pour la ville.
Énorme. Un des plus grands projets urbanistiques aujourd'hui dans la ville.
Combien d'ouvriers travaillent sur le chantier?
Entre 40 et 50 000 avec toutes les tours.
Et alors vous faites quoi?
Les aménagements espaces verts entre les grandes tours et on a 7 hectares de dallage et on a environ 250 à 300 personnes dans l'entreprise de paysage. Et les palmiers au lointain sont les palmiers plantés par l'entreprise.
Et vous allez en planter combien?
900 à 1000.
Et donc c'est destiné à devenir le cœur financier de Riyad.
Et là, une voie piétonne qui donnera sur les cafés et les boutiques qui seront de part et d'autre.
Et alors toutes les tours seront reliées par des passerelles
avec air climatisé. Et vous voyez la structure devant vous, c'est comme un domino qui est en cours de construction.
Et donc les gens pourront passer dans tout le centre, d'une tour à l'autre.
En plein été, sans avoir les 40 ou 50 degrés de l'extérieur.
Parce qu'ici, c'est un four l'été.
L'été, c'est un four.
Ça peut monter à combien?
50 dans la journée et plus.
C'est un quartier un peu futuriste?
Très futuriste, très moderne, avec que des bâtiments avec des angles et vous n'avez aucune courbe. Parce que dans cette culture, les courbes ne sont pas l'élément architectural le plus... sélectionner plutôt les courbes brisées, les lignes fortes, les triangles, mais pas de courbes. Vous voyez, ça, c'est les ouvriers, les quarts d'ouvriers.
Ils sont logés où, les ouvriers?
Dans des camps qui se trouvent à, je sais pas, 50-60 km de la ville.
Donc, ils font les navettes tous les jours?
C'est des gens qui viennent à 5h du matin et qui repartent à 4h du soir.
Et c'est plutôt quelle nationalité?
Tous les pays d'Asie. Alors, vous avez le Pakistan, le Bangladesh, l'Inde. Et tous les ingénieurs sont des gens qui viennent des Philippines ou des Indes. Mais les, sur le chantier, c'est surtout des gens du Pakistan et de l'Inde.
Française, une femme, sur un chantier où souvent il y a quand même beaucoup d'hommes, est-ce que c'est facile ?
Oui, je peux aller et venir, puisque le client a donné tous les pouvoirs de me faciliter d'accéder au chantier. Même la sécurité a été avertie pour ne pas m'arrêter de façon pour vérifier. Donc tout le monde sait que je travaille sur le chantier.
Vous êtes habillée comment sur le chantier ?
Je suis habillée avec une veste style Maharaja avec le col Mao et un mélange d'origine asiatique.
Mais c'est plutôt une robe foncée ?
Tout dans les couleurs noires, gris, bleu, que les couleurs du pays, soit blanc ou noir.
Pas de voile ?
En général, jamais.
Mais vous avez quand même
un foulard pour en cas d'urgence, si le cas se pose, jusqu'à présent une seule fois.
Parce que sur le chantier, vous êtes la seule femme, il y a quelques secrétaires philippines, mais c'est tout.
Personne d'autre sur le chantier, à part moi, est la seule femme sur le chantier. Alors maintenant, le client a employé pour le service marketing des Saoudiennes qui font le marketing. Elles ont été éduquées à l'étranger, aux États-Unis, et elles sont tout à fait compétentes. Elles vont sur le chantier pour les futurs acheteurs ou occupants des tours, et elles sont en abaya.
Abaya noir, l'habit traditionnel.
L'habit traditionnel, la seule chose, elles n'ont pas la face voilée. Elles ont un voile sur la tête, mais on voit leur visage.
Elles parlent anglais ?
Elles parlent anglais, impeccable. Moi, j'étais à des réunions avec elles, et elles vivent, elles se comportent dans les réunions comme quelqu'un qui vient de l'Ouest, des États-Unis, de l'Europe, qui travaille de façon internationale.
C'est-à-dire que les femmes saoudiennes accèdent de plus en plus au marché du travail ?
C'est pas qu'elles acceptent, on les a autorisées à pouvoir accéder. Les femmes saoudiennes sont extrêmement qualifiées et jusqu'à présent, elles n'avaient pas le droit d'ouvrir des affaires. C'est uniquement le roi King Abdullah qui a commencé à favoriser la permission aux femmes de pouvoir ouvrir leurs affaires. Et c'est le King Abdullah qui a autorisé d'avoir 30 femmes à la Shura et ça, c'est arrivé en 2013. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de femmes dans la politique en Arabie Saoudite.
Le Shura, le magistrat Shura, c'est un peu le Parlement ici ?
Oui, c'est un peu comme un Parlement, comme un Sénat, ou comme une chambre basse qui regarde les lois et qui donne ses avis sur la gestion du pays.
Donc ça, vous voyez quand même, de votre point de vue, une forme d'amélioration de la condition féminine ici ?
Je ne vais pas appeler ça une amélioration de la condition féminine.
Enfin, progrès.
Je dirais que c'est plutôt la façon culturelle qui évolue, mais qui ne va pas changer du jour au lendemain. Parce que dans la structure du pays, rien n'est conçu pour que les femmes puissent être, je dirais, comme en Europe, comme aux États-Unis. Par exemple, s'il y a un accident sur la route, il n'y a pas de femmes policières, il n'y a que des hommes. Et comme il y a une grande ségrégation entre les hommes et les femmes, il faut que l'ensemble de la structure puisse être équilibré. Donc et vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain la culture d'un pays. Il faut qu'elle puisse... par elle-même, il faut qu'elle fasse sa propre évolution. Et l'évolution arrivera par les femmes.
Mais vous sentez que c'est un pays qui évolue quand même malgré tout, malgré ses pesanteurs ?
Les pesanteurs, bon, elles sont grandes, mais l'évolution, bon, c'est la vie du quotidien. Tous les jours, moi je suis là depuis 2 ans, c'est la même. Non, ça commence ma 4e année, c'est la même chose depuis 4 ans.
Vous sentez que ça n'a pas beaucoup évolué ?
Très lentement. À part les gens dans le gouvernement qui ont été nommés, mais bon, vous rencontrez des Saoudiennes dans les sorties organisées, les rencontres sociales, culturelles que la France fait, parce que ce sont des gens un peu internationaux, mais dans les communs, dans la rue, vous ne rencontrez personne, dans les restaurants, vous ne rencontrez personne, il n'y a pas de lieu public d'échange, vous n'avez pas le système café que l'on a à Paris, où vous pouvez échanger, même avec des gens que vous ne connaissez pas.
Oui, ici, la mixité est interdite dans le lieu public.
Il n'y a pas de mixité. Il n'y a pas de mixité. Soit vous êtes un homme seul, vous êtes avec dans le quartier des hommes, soit vous êtes une femme et vous êtes uniquement admise dans la section famille.
Et sinon
Eh bien, en général, les hommes sont au rez-de-chaussée, les femmes sont au premier. Vous avez deux entrées. Par exemple, si je veux aller à la banque n'est pas partagée. Vous avez une section officielle la plus somptueuse, si on peut dire, pour les hommes qui fait face à la rue, et vous avez une porte de côté réservée aux femmes. Et vous n'allez pas à la banque avec les hommes.
Et qu'est-ce que vous dites, les Saoudiennes ? Elles veulent que ça change ou finalement elles sont accoutumées ?
Elles sont très envieux, très, très intéressées de voir cette façon aussi libérale de me voir arriver. Et bon, pour elles, elles volent, mais elles ont leur culture. Donc elles ne vont pas être contrées leur culture. Et toutes celles qui veulent de la liberté sortent et vont à l'extérieur. Et donc vous avez une classe sociale tout à fait, je dirais, aisée et qui régulièrement part d'Arabie Saoudite pour avoir cette liberté.
C'est pour souffler, pour respirer.
Voilà, pour avoir un peu de liberté, de pouvoir vivre sans contrainte et sans surveillance, ce que dirait public.
Et vous avez aussi besoin de partir un peu du pays de temps en temps pour vous aérer ?
Comme tout le monde, a besoin de sortir minimum une fois tous les 2-3 mois minimum.
Mais c'est quand même dur à la fin.
À la fin, c'est extrêmement... tout devient difficile, tous les détails mineurs deviennent insupportables.
La capitale saoudienne est un désert culturel. Pas de cinéma, pas de théâtre. Pour les jeunes, les distractions sont rares. Le jeudi soir, veille de week-end, ils se retrouvent sur Tarliya, une large avenue bordée de restaurants et de cafés branchés que l'on surnomme les Champs-Élysées de Riyad. Filles et garçons se croisent sur les trottoirs ou dans les centres commerciaux climatisés. On s'échange discrètement des numéros de portable ou adresses mail pour ensuite dialoguer sur Internet. Les jeunes hommes se retrouvent aussi dans des résidences à la périphérie de Riyad. Ce sont des maisons sommaires avec un jardin et une cour entourées de murs. À l'abri des regards, on y discute jusque tard dans la nuit en buvant du thé. Nous avons rencontré Mohamed qui retrouve ce soir des amis d'enfance.
Je m'appelle Mohamed, je viens d'Arabie Saoudite, de Riyad.
Vous travaillez ?
Non, je viens seulement d'avoir mon diplôme aux États-Unis en économie et en marketing.
Où aux États-Unis ? À New York, Washington ?
Non, j'étais dans le Minnesota et le dernier semestre, j'ai suivi un cursus à Washington.
Et combien de temps êtes-vous resté en Amérique ?
De 2011 à 2015, presque 5 ans.
Donc vous venez juste de revenir ?
Oui, il y a 2 semaines à peu près.
Mais est-ce que c'est difficile de se réadapter à son pays ?
Oh oui, bien sûr, c'est difficile. On a besoin de beaucoup de temps pour s'y faire. Je pense que c'est l'éducation qui fait la grande différence entre ici et les États-Unis. Beaucoup de personnes ici ne sont pas aussi éduquées que là-bas. C'est la raison principale du décalage.
Donc, vous vous sentez déconnecté ?
Oui, bien sûr.
Et vous êtes fiancé, marié ?
Je suis divorcé. Je me suis marié ici, c'était en 2007, et j'ai divorcé en 2011.
Et Mohamed, vous aviez choisi votre femme à cette époque ?
Il y a une certaine manière de choisir ta femme. D'abord, envoyer ta mère pour qu'elle la voie. Et avant de l'épouser, tu peux la voir, mais seulement dans les règles de l'islam. C'est comme ça que je pourrais le dire. Tu peux la voir une fois, pas plus de 10 minutes. Et si tu l'acceptes et qu'elle t'accepte, tu peux l'épouser. Et si ce n'est pas le cas, c'est fini. Mais d'abord, je dois connaître sa famille, savoir exactement d'où elle vient. Ça, c'est la première chose.
Mais le problème, c'est comment tu peux connaître la personnalité de ta future femme ?
Comme je vous l'ai dit, les cultures sont différentes entre les pays et on doit accepter ça.
Mais est-ce que ces traditions doivent changer ? Ou alors, est-ce que la plupart des jeunes restent sur cette ligne ?
Chaque pays a une culture différente. Mais si vous me demandez ce que j'en pense personnellement, je vous dirais que je n'accepterai pas la culture américaine. Pour moi, c'est une question de morale. En tout cas, en ce qui concerne la façon de choisir ta femme, parce que tu vas vivre avec elle pour toujours et tu vas avoir des enfants avec elle. Je n'accepterai pas une fille rencontrée dans la rue.
Il y a un système, comme vous l'avez dit, une manière de faire. Mais pensez-vous que cela peut changer un peu ou être modifié autrement ?
Non, car c'est selon les règles de l'islam et ces règles-là ne changent pas.
Donc vous pensez que ça restera en l'état ?
Oui. Et on l'accepte. On ne veut pas changer ça. Tu peux demander à n'importe lequel d'entre nous, il ne voudra pas que ça change.
Et pour les femmes ?
Je n'en sais rien pour les femmes. Je suis un homme.
Mais peut-être qu'elles veulent le changement.
Peut-être, mais je pense que 70% d'entre elles ne veulent pas de changement. Parce que pour la plupart d'entre elles, si tu leur demandes, elles sont timides. Elles ne voudront pas traîner avec toi pour faire ta connaissance ou que tu fasses leur connaissance.
Nous avons rendez-vous avec Bedour bint Abdullah Essouderi, une artiste peintre de la nouvelle génération. Nous sommes à Diriyya, un quartier historique de Riyad qui a été rénové et transformé en espace culturel. Ce soir-là, des jeunes graffeurs mettent la dernière touche à une fresque murale représentant le roi Salman. Nous rencontrons Bedour dans un café désert, l'endroit est discret, vêtu d'une abaya noire, sorte de longue robe couvrant tout le corps, et d'un niqab, le voile intégral, elle se découvre le visage et évoque sa vie d'artiste en Arabie Saoudite.
Je m'appelle Bedour bint Abdullah El-Souderi. Je suis une peintre saoudienne.
Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes artistes peintres en Arabie ?
Bien sûr, il y en a beaucoup. Et beaucoup d'entre elles m'ont précédé. Comme Safia Benziger, elle a fondé une école de peinture en Arabie Saoudite. Il y a aussi des artistes femmes, et pas seulement à Riyad, mais dans tout le royaume, comme à Jeddah ou dans les principales villes. Ces femmes peintres sont impliquées dans tous les domaines artistiques, que ce soit la sculpture, la peinture et la photographie aussi. Moi, au début, j'ai commencé par des tableaux abstraits. Ensuite, j'ai évolué plutôt vers l'art numérique. Ça associe la photographie, l'acrylique, l'huile, et ensuite j'ai mélangé toutes ces techniques. L'idée, c'était d'utiliser toutes ces techniques modernes afin de toucher un plus large public. Vous savez, à Riyad, les galeries d'art commencent à se développer. Mais pas seulement, il y a aussi Jeddah, Khobar. Dans la ville d'Abra, il y a un village dédié complètement aux artistes avec des ateliers. Les jeunes gens et les jeunes filles sont intéressés par ce mouvement artistique auquel ils essayent de participer, et ce dans tous les secteurs artistiques.
En Arabie, est-ce qu'il existe des lignes rouges en matière artistique ?
Je crois qu'il y a des limites en ce que l'art doit respecter des coutumes et des traditions. Par exemple, il ne doit pas s'attaquer aux religions des autres. Je pense que ce sont des lignes d'ailleurs qui ne sont pas valables qu'en Arabie Saoudite, mais qui le sont partout dans le monde. Oui, ce sont des limites communes à tout le monde.
Et aujourd'hui, avec le nouveau roi Salman, pensez-vous que les droits des femmes vont s'améliorer? Et que veulent-elles en fait?
Les Saoudiennes ont des ambitions, et beaucoup les ont d'ailleurs déjà réalisées. La femme saoudienne est ambitieuse. Moi, par exemple, en tant qu'artiste peintre, je suis soutenue par le ministère de la Culture. Et j'ai même été choisie pour représenter mon pays dans des événements internationaux. C'était le cas récemment à Londres, où j'ai même reçu un prix, grâce à Dieu.
L'Arabie est un pays où la religion est très présente. Est-ce que cela a de l'influence sur votre travail artistique?
De l'influence directe, vous voulez dire? Comment dire? Je pense qu'il y a une prise de conscience, voire une forme d'acceptation. Par exemple, dans le domaine de la photographie, il y a de plus en plus d'artistes, comme dans le dessin d'ailleurs. Mais franchement, je ne pense pas qu'il y ait une grande influence des religieux dans ces secteurs.
En Arabie Saoudite, on a l'impression qu'il y a un combat entre un pays très conservateur et un autre qui veut évoluer vers la liberté, vers l'ouverture.
Oui, c'est sûr. Mais c'est comme ça dans toutes les sociétés du monde. Il y a des composantes très conservatrices, des composantes qui le sont beaucoup moins. C'est quelque chose de naturel, vous savez, spécialement en Arabie Saoudite. Mais ça bouge aussi beaucoup ici, vous savez. Il y a plus d'ouverture sur le monde extérieur. Je suis très optimiste, notamment quant au rôle des femmes, qui est ancien dans notre société, mais qui est aujourd'hui plus mis en valeur, notamment avec les réseaux sociaux. Les femmes travaillent de plus en plus. Et je peux même vous dire une chose, c'est que ces femmes saoudiennes ont remporté des prix internationaux dans le domaine de la médecine. Il y a un soutien de l'État en faveur des femmes dans les sciences, les technologies, dans la culture, dans les arts aussi, etc. Vous savez, en Arabie Saoudite, nous sommes comme dans tous les autres pays. Nous avons nos problèmes, des problèmes de chômage, de droits humains. Mais il y a au final un grand espoir, parce que les femmes continuent de progresser.
Le chemin est long.
Au contraire, il y a maintenant des femmes qui siègent à l'Assemblée basse. Et ces femmes participent à l'élaboration des décisions de l'État, lors des prochaines élections municipales, par exemple. Moi, j'ai une amie qui va se présenter au scrutin.
Et je pourrais la rencontrer?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Merci beaucoup. Nous avons joint par téléphone son amie candidate aux prochaines élections municipales de décembre, mais impossible de la rencontrer. Certes, la loi saoudienne autorise pour la première fois les femmes à participer à ces élections locales, mais leur interdit toute déclaration à la presse ou de faire campagne sous peine d'une amende de 10 000 rials, environ 2 500 euros. Pour s'adresser aux électeurs masculins, les candidates doivent louer les services d'un agent qui parlera à leur place. Pas question de tenir des meetings devant des hommes, elles n'ont pas le droit d'apparaître sur une affiche électorale, même complètement voilée. Dans ces conditions, certaines femmes ont décidé de retirer leur candidature.
Thank you.
l'Arabie Saoudite et Dieu cacha la femme. C'était un reportage de Christian Chesneau, prise de son Arthur Gerbeau. Avec nous ce matin, Stéphane Lacroix, professeur à Sciences Po et spécialiste de l'Arabie Saoudite, pour aller au-delà de ce reportage. On entend dans ce reportage que les droits des femmes avancent vraiment très très lentement en Arabie Saoudite. Il y a des progrès, mais c'est vraiment très très lent, non ?
Oui, c'est une société qui est de toute façon fondamentalement conservatrice, en vérité, il y a une vraie division des positions sur cette question des droits des femmes. Vous avez quand même un segment conservateur qui est massif en Arabie. Hein, au mieux, c'est du 50-50. En tout cas, le pouvoir en permanence, d'ailleurs, se prévaut ce manque de consensus pour finalement décider de ne rien faire. Et quand il le fait, à mon sens, surtout pour les Occidentaux, c'est-à-dire pour montrer à l'étranger qu'il se passe des choses, plutôt que parce que ça émane de vraies demandes organisées de sa société. Il n'y a pas de demande organisée en Arabie.
On entend que les femmes peuvent être candidates à ces élections municipales, par exemple, mais qu'elles ne peuvent pas vraiment faire campagne. Ça, c'est assez incroyable.
Oui, parce qu'évidemment, là encore, cette décision, elle a été prise à mon sens. Il faut quand même revenir à l'origine de la décision. On est en 2011, on est dans la foulée des printemps arabes. L'Arabie Saoudite elle-même, alors il n'y a pas de pression majeure comparable à ce qu'on a en Tunisie ou en Égypte. Il y a quand même des petits mouvements de société, il y a quand même des gens qui s'expriment, qui écrivent sur les réseaux sociaux, etc. L'Arabie se sent obligée, d'une manière ou d'une autre, de suivre ce mouvement de l'histoire. Peut-être aussi parce que, c'est là encore, ses partenaires occidentaux la regardent de près et voient ce qu'elle va elle-même faire dans le contexte de ce grand changement régional. Et c'est sur ce terrain-là qu'elle va intervenir. Et en même temps, elle va le faire avec beaucoup de prudence, parce que là aussi, elle a un segment conservateur qui est très fort. Elle a des gens, des oulémas en particulier, on viendra peut-être sur ce terme, qui sont les religieux, qui sont le grand partenaire de la monarchie saoudienne, qui sont un peu les gardiens de l'ordre moral en Arabie Saoudite, avec lesquels les princes doivent en permanence composer. Et donc même quand on va mettre en place cette avancée sociétale, parce qu'on considère que c'est une bonne chose pour l'image du royaume, ça donne précisément cette image d'un royaume qui change, eh bien on va le faire en essayant de suivre au maximum les règles de la moralité islamique au sens le plus strict, dont les oulémas, là encore, sont les gardiens.
Alors, quand il y a une succession en Arabie Saoudite, on se demande un peu quelle va être un peu l'attitude du nouveau monarque. Le roi Salman, quelle est sa latitude et quelle est, lui, son ouverture sur ces questions-là ?
Sur ces questions-là, il est plutôt vu comme plus conservateur que son prédécesseur. Le roi Abdallah, il s'était entouré d'un certain nombre de gens qui venaient de ce qu'on appelle en Arabie les libéraux. Alors, faut les entendre au sens saoudien. Les libéraux saoudiens, ce sont pas du tout des révolutionnaires. Ce sont des gens qui, justement, sont en faveur de petites avancées sociétales à la marge, qui considèrent qu'en particulier, cette question des libertés individuelles est importante, sans jamais brusquer le système. Le roi Salman, à l'inverse, il s'est plutôt rapproché de l'establishment conservateur. Alors là aussi, de manière subtile, hein, c'est pas un revirement, mais c'est vrai, quand on regarde son entourage, quand on regarde les ministres qu'il a nommés à son arrivée au pouvoir, on voit revenir des gens qui représentent, là encore, ce segment plus conservateur de la société saoudienne. Donc effectivement, le fait que ces élections aient lieu sous Salman explique aussi peut-être que, eh bien, justement, on fasse en sorte qu'elles se tiennent dans les règles les plus strictes de la moralité islamique ou wahhabite, comme on dit en Arabie.
Alors, il est en prise quand même avec une société qui évolue malgré tout, qui bouge. Par exemple, la majorité des étudiants en Arabie Saoudite sont des étudiantes, des femmes.
Oui, parce que c'est vrai qu'on oublie souvent ça. Dans les années 60, l'éducation a été autorisée pour les filles. Et donc, on a une population qui est en fait majoritairement féminine. Enfin, je crois qu'on doit être à 53 contre 47. Donc les femmes sont représentées dans les universités à la mesure de leur présence dans la population. Et puis souvent, comme finalement elles, il y a plus de restrictions sociales, elles sont moins enclines à travailler tôt parce que elles ont accès à moins de métiers, elles ont tendance à rester à l'université plus longtemps.
Est-ce que les difficultés économiques actuelles, avec un baril à 50 dollars, donc une passe économique un peu difficile, peuvent exercer une pression aussi sur ce pouvoir saoudien, un mécontentement de la population et une certaine forme de pression ?
Ce sera probablement le cas à terme si les prix se maintiennent à leur niveau actuel. Pour le moment, on a un pouvoir qui a quand même des réserves colossales de dollars à l'étranger. On parle de 700 milliards. Si c'est le cas, ça leur donne quand même un matelas assez conséquent. Alors évidemment, pour le moment, le budget est déficitaire comme tous les ans. Hein, donc ils sont obligés de prendre dans ce matelas pour se maintenir à flot et en particulier maintenir ce système de distribution, parce que c'est ce qu'on appelle en sciences politiques un état distributeur, c'est-à-dire que c'est un état qui fournit à sa population toute une série de services. C'est un état providence plus. En Arabie Saoudite, on ne paye pas le téléphone sur des lignes fixes, on ne paye pas l'électricité quand on est citoyen saoudien, c'est-à-dire que l'état vous fournit toute une série de services. C'est vrai, quand on est saoudien, on est habitué à ça. Si un jour l'état dit, on n'a plus suffisamment pour vous donner tout ça, maintenant vous allez devoir payer, il est probable qu'effectivement ça se passe assez mal.
Mais pour l'instant, ils ont toujours donc les moyens d'assurer cette paix sociale, en quelque sorte.
Oui, dans les estimations les plus pessimistes vous disent que peut-être dans 5 ans, si les prix se maintiennent à ce niveau, il y aura des problèmes. Mais en tout cas, pour les 5 prochaines années, ils sont à peu près sûrs de pouvoir tenir avec ce matelas. D'ici là, les dirigeants saoudiens vous expliquent qu'il se passera beaucoup de choses. Ils estiment que les prix, à un moment, vont remonter, etc., que leur économie se diversifie. Ça, c'est un grand thème qu'utilisent les Saoudiens, même si concrètement, on ne voit pas grand-chose en termes de diversification de l'économie. Mais ça fait aussi partie du discours. Donc, finalement, c'est vrai qu'on est un peu frappé de l'optimisme d'un certain nombre de ces dirigeants qui vous disent non, mais attendez, on a encore suffisamment, et puis dans 5 ans les choses auront changé et on aura trouvé un moyen de se remettre à flot. Pour le moment, c'est pas vraiment le cas, en tout cas si on regarde la situation actuelle. Mais ouais.
Alors il y a les défis internes et puis il y a les défis externes aussi, avec une région qui est en ébullition, avec la présence maintenant du groupe État islamique. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut exercer une pression sur le pouvoir saoudien.
Ça exerce une pression indéniable, c'est-à-dire que le groupe État islamique, il a en Arabie un certain soutien. Alors c'est un soutien qui est limité, hein, c'est pas une majorité du tout de la population, mais c'est vrai que dans le segment conservateur et dans la frange radicale des conservateurs saoudiens, il y a des gens qui voient dans le modèle sociétal de l'État islamique quelque chose qui s'approcherait de cet idéal wahhabite dont ils considèrent qu'aujourd'hui il n'est plus vraiment en vigueur en Arabie Saoudite, parce que justement les princes ont fait toutes sortes de compromis, ont mis en place toutes sortes d'avancées sociétales, en tout cas qu'on pourrait regarder comme telles de notre point de vue, mais qui, du point de vue des conservateurs, sont une trahison de cet idéal pur et authentique que eux espèrent voir revenir. Donc pour certains, effectivement, l'État islamique peut être un modèle. Et évidemment, alors, si l'État islamique devait arriver aux frontières de l'Arabie Saoudite au nord, pour le moment, il est quand même bloqué, parce qu'il y a le gouvernement de Bagdad, il y a toute cette zone chiite au sud qui résiste à l'avancée de l'État islamique. Mais il est très clair que si l'État islamique devait avancer et arriver jusqu'à la frontière saoudienne, il pourrait trouver des alliés dans la société saoudienne.
Merci Stéphane Lacroix. Les élections municipales en Arabie Saoudite, ce sera le 12 décembre, avec donc, pour la première fois, la participation de femmes. Interception est réalisée par Anne Lureau, assistée de Stéphane Combe, au mixage aujourd'hui Claude Niort. C'est Zora Ben Smaili qui confectionne la page web de l'émission, que vous pouvez consulter sur le site de France Inter. Après le journal de 10h, ce sera Eva Bester, remède à la mélancolie. Bon dimanche.